Donc, ce matin, j'aimerais... moi, au fond de mon cœur, je suis un bon pancotiste. Mais quand on dit un pancotiste, pas un pancotiste d'étiquette. Je veux voir Dieu agir. Je ne sais pas si c'est vos cœurs, c'est vos désirs. Des fois, on va à l'église, il ne se passe pas, on ne voit pas de nouveau, on ne voit pas ci, on ne voit pas ça. Mais il me semble que à Pentecôte, en tant que pancotiste, il me semble qu'on devrait bouger. Donne-moi un gros amen, là. Donc, c'est la vérité. L'Église, elle est menée au monde dans la puissance, puis on ne vit pas dans la puissance. Tout le monde est d'accord avec ça. Et moi-même, je vais être honnête avec vous, je dis, Seigneur, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et Manon a dit, tu te remets-tu en cause? Oui, je me remets en cause. Est-ce que je dois m'approcher davantage? Je dois connaître le cœur de Dieu davantage? Est-ce que je dois lire davantage? Est-ce que je dois activer davantage? À quelque part, je fais mes... Quand je vous prêche, j'ai fait mes examens. Je fais mes examens de conscience. Et ce matin, je pense qu'on a une dynamite dans les mains, mais on ne s'en sert pas. Puis on devrait déclarer la parole de Dieu avec force, avec puissance et avec autorité. Je pense qu'il y a, à quelque part, un peuple qui va être épanoui, c'est un peuple qui va s'éclater. Un peuple qui est prisonnier, c'est un peuple qui est malheureux. Amen. Je ne parle pas juste pour ici, là. Je parle de langage, que si une personne est malheureuse, elle ne peut pas avancer. Elle a besoin d'être guérie. Quand un peuple est malade, il ne peut pas avancer. Quand quelqu'un est brisé, blessé, c'est dur de faire des soldats. Mais Jésus est venu pour guérir, nous relever et nous restaurer. Ça, c'était la bonne nouvelle. Et je crois que Jésus est encore le même aujourd'hui qui peut remporter la guérison, la délivrance et la restauration. On parle de l'Église, mais l'Église, ce n'est pas juste à l'intérieur. L'Église, elle doit être à l'extérieur. Et c'est ça que je veux parler ce matin dans deux points importants. Je me suis fait, à travers la prière, à travers la lecture, il y a des choses que j'aime. Et on va regarder ça ce matin, deux gros points. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur sur l'autorité, sur la puissance de la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, je sais que le pasteur Stéphane me disait hier, je disais à l'Église d'emporter vos Bibles. Avez-vous vos Bibles? Alléluia. Bon, c'est bon. La prochaine fois, je vais faire la même chose. OK. Alléluia. Le psaume 33, verset 9, nous dit, alléluia, moi, je suis bien soumis, là, fait que je vais mettre ça sur PowerPoint. Là. OK. Le psaume 33, verset 9, car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Wow! Trois mots. Quand il dit, ça arrive, il ordonne, ça existe. C'est fort comme pensée, comme direction, je pourrais dire. Vous savez, sans rencontrer l'œuvre de la création, parce qu'on aurait plusieurs études, donc, ce psaume, néanmoins, nous parle de la création de Dieu. Dieu dit quelque chose, la chose arrive et le Créateur. Il ordonne et cela se manifeste, ça existe. Dieu dit que la lumière fut et la lumière fut. Donc, il ordonne et ses pensées s'exécutent. Donc, Dieu crée par l'action de sa parole. Donc, c'est le pouvoir créateur de la parole de Dieu qui fait que le monde est ici aujourd'hui. Je dirais que Dieu est le créateur et c'est lui aussi qui gouverne. Le psaume 29, verset 10, l'Éternel était sur son trône lors du règne du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Donc, Dieu règne, Dieu ordonne, les choses se manifestent et sa puissance se manifeste. Mais la bonne nouvelle également, que Dieu nous donne aussi la parole et l'autorité de sa parole pour que le peuple puisse activer dans la force et dans la puissance. Combien sont d'accord avec ça? Donc, c'est la parole qui caractérise une puissance incomparable, je pourrais dire. Souvenez-vous, dans la vie de Jésus, avant d'entrer dans le sujet même que je veux parler ce matin, Jésus a calmé les tempêtes. Jésus a parlé, la tempête s'est calmée. Il a même marché sous les eaux. Il pouvait dire à la montagne, le Marc 11, verset 23, ça nous dit, « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, De là, jette-toi dans la mer, et s'il doute point dans son cœur, mais il croit que cela dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, le pouvoir de la parole, s'il croit, s'il prononce, les choses vont se manifester. Jésus parle par sa parole, Jésus exécute sa parole, donc la parole est venue apporter le règne souverain de Dieu dans notre vie. Est-ce que c'est vrai? Au point de dire que Jésus disait à l'homme qu'il pouvait porter des fruits en 100, en 60 et en 30. Nous devons prendre conscience de la vie de la parole. Alléluia! Quand je dis prendre conscience de la parole de Dieu ce matin, c'est de prendre conscience de la puissance qui nous accompagne dans la parole. C'est pas juste un livre là, qu'on va prendre pour aller se coucher, puis c'est un bon feuilleton. La parole, c'est la vie de Dieu. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de puissant. La parole de Dieu, elle vient renverser nos situations. Elle répond à nos besoins, si intimes qu'ils soient-ils. Et j'aimerais en parler ce matin. C'est le sujet que j'ai vraiment à cœur, qui a été déposé. Le pouvoir et la puissance et l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. Parce qu'on a une autorité dans nos vies à travers la parole de Dieu. Il y a un récit où que Jésus a entré dans la ville de Capernaum et il y avait un officier romain et qui avait un de ses serviteurs proche de lui qui est prêt de mourir et il va demander à Jésus de venir. Et lisons Luc chapitre 7, verset 2 au verset 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier et de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instance supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aima notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un, à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. On va regarder le contexte de ce verset, de ce chapitre. Dans ce récit, comme j'ai dit, il y a un centenier et un officier romain, en réalité, qui a une responsabilité entre 80 et 100 soldats, donc c'est un centenier. Il doit diriger, il doit discipliner ses disciples, ses combattants, en réalité. Mais ce dernier, il y a un serviteur qui est gravement malade, qui va mourir, et il croit que Jésus peut faire la différence. Cet officier, c'est un homme de bien, un homme qui respecte les Juifs, c'est un homme qui savait comment l'autorité fonctionnait, parce que lui-même il était en charge des personnes, des centeniers, tout ça, de tous les soldats. Il reconnaît que Jésus a l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, et qu'il a entendu parler des œuvres de Jésus-Christ. Alléluia! Donc, cet officier va envoyer des anciens vers Jésus, pour que Jésus guérisse son serviteur. Et verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instance supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Nous voyons les anciens qui vont aller, qui vont se soumettre à leur superviseur, à leur centenier, vont aller vers Jésus, vont supplier Jésus de guérir cet homme. Ils vont le supplier, dit, viens, on a un ordre, on veut que notre serviteur, que pas notre serviteur, notre centenier, guérisse cette personne. Ils disent, viens avec nous, viens guérir cet homme. Cet homme est malade, cet homme est paralysé, cet homme va pas bien. Il désire que tu le guérisses, car il croit que tu peux lui donner la guérison. La raison car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est dans ce discours-là qu'ils s'en vont. Mais pour le centenier, il veut honorer son serviteur. Cet homme a fait de bonnes choses. On n'est pas guéri par nos œuvres. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais on peut me demander, comme qu'on a fait ce matin, la faveur de Dieu pour que Dieu agisse sur la vie de la personne. Et c'est la même chose ici. Et sans se faire supplier, Jésus va aller vers ces gens. Et le verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il y a quelque chose aussi de fort. Quand le centenier a su que Jésus est proche, il envoie ses amis, puis ses amis disent, « Jésus, viens pas dans la maison. » Dis juste un mot, il va être guéri. Et je me suis posé la question, pourquoi il dit une parole comme ça? Et donc, le verset 7, il dit, « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset 8, « Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un, va, et il va, à l'autre, vient, et il vient, et mon serviteur fait cela, il le fait. » Cet homme ne se sent pas digne, premièrement, de rencontrer Jésus. Pour lui, il ne remplit pas les conditions premières pour que Jésus rentre dans sa maison. Un juif et un païen, parce que nous, on est les païens, là. Il dit un juif, ça ne rentre pas dans une maison non-juive, c'est des païens. Il ne se sent pas digne de rentrer dans la maison. Et cette option-là, il va s'humilier devant Jésus, il va reconnaître Jésus, il s'adresse à un juif, et les juifs, comme que je viens de dire, ne peuvent pas rentrer dans la maison. Il vient dire un mot, il va être guéri. Sans venir dans ma maison, dis-le, il va être guéri. Donc, tu dis les choses arrivent, elles se soumettent, elles se manifestent, elles se réalisent. Cet officier, écoutez bien, il savait qu'avec une personne, qui avait affaire à une personne, qui avait une grande autorité. Écoutez bien, il savait que Jésus était l'autorité. La parole, donc, c'était la parole de vie ici. Cet homme, Jésus, tu as un mot à dire et ça s'arrête là. Cet officier reconnaît que Jésus est la parole d'un roi puissant. Et je veux développer, la parole de Dieu est notre autorité. Il reconnaît cet homme, son royaume, un roi qui règne et que sa parole a le pouvoir d'agir. Écoutez, on a une parole. Est-ce qu'on a une Bible avec nous? Et cette Bible-là doit agir dans nos vies. On a l'autorité dans nos vies à travers la parole de Dieu. Écoutez bien, puis je vais développer, c'est tout mon thème ce matin. Cet homme a entendu ce que Jésus a fait. Écoutez, on va lire 4 versets rapidement. Matthieu 7, 29. « Car il l'enseignait comme autorité et non pas comme les scribes. » Luc 4, 32. « On était frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. » Luc 4, 36, « Tous furent saisis de stupeur. Ils disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Ils commandent avec autorité aux puissances et aux esprits impurs et ils sortent. » Verset Matthieu 8, 16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. » L'autorité. L'autorité de la parole de Dieu. On voit ici un roi, quand il parle, on se soumet à la parole de Dieu. Allô? C'est la parole qui est notre autorité. Jésus parlait, les choses se faisaient. L'autorité de Jésus, c'est la puissance de la parole. Sa parole prend des décisions. Sa parole, elle nous dirige. Et on se soumet à la parole de Dieu. Les démons étaient soumis à Jésus. Il ordonnait, les choses se manifestaient. Il disait à la maladie, sors ou maladie, sois guérie. Les maladies étaient guéries. Alléluia. C'est à la puissance de la parole de Dieu. Et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on n'ose pas faire ces actions-là. Quand on prie avec les gens pour la maladie ou pour la guérison, je dis toujours, Seigneur, accompagne-moi dans ta parole avec ces choses-là. J'ai besoin que les dons de l'Esprit se manifestent. Il ne faut pas douter de la puissance de la parole de Dieu. On est des églises qui aspirent à l'onction de Dieu. Allô? On ne vient pas dimanche parce que c'est l'Église. On devrait être l'Église 7 jours sur 7. L'Église, c'est un lieu de recueillement. C'est un lieu qu'on vient s'encourager ensemble. C'est un lieu qu'on veut mettre de l'amour ensemble. C'est l'Église. Mais l'Église, quand elle est finie à 11h ou elle est finie à midi, l'Église continue. C'est vous, l'Église. Et vous avez toujours cette parole qui vous suit. Alléluia! Pour l'officier, il voit un roi que toute autorité pour accomplir ce miracle. Cet homme reconnaît la royauté d'un roi, une personne qui a pleinement le pouvoir d'ordonner les choses. Celui qui dit un mot, il est guéri. La parole, c'est l'action de dire quelque chose. C'est une puissance que nous avons entre les mains. Alléluia! Quand Dieu parle, les choses arrivent. Et quand nous parlons avec la parole de Dieu, on devrait voir la manifestation de la parole de Dieu se manifester. Et les réveils commencent de cette façon. On vient pas à l'Église juste du « bénis-moi » puis « oh, j'ai un bon message ». Les bons messages ne sauvent pas. Allô? Je veux prendre conscience ce matin qui nous sommes en tant que frères Pentecôte qui croyons à la Pentecôte. Moi, j'ai souvent l'amour, on est dans la pente, on est dans la côte. On est dans la pente, on est dans la côte. On est des bons Pentecôtistes. Ça monte puis ça descend. Parce que c'est vrai. Je me souviens, à mes débuts, on était en charge d'un groupe de jeunesse et on était leur pasteur jeunesse. Puis avec les jeunes, quand c'est en haut, ça fly. Quand ils sont en bas, ça descend. Laissez-moi vous dire, un jeune, tu peux te bosser une semaine, puis il va te défoncer le monde. Puis l'autre semaine, tu vas vouloir pour leur booster la batterie, quoi. C'est un peu comme ça, nos églises. Alléluia! L'officier dit, parle, t'as le pouvoir de guérir. C'est toi le roi, c'est toi qui règne, c'est toi qui as l'autorité. Il se soumet à la parole de Dieu. Cet homme s'humilie devant Dieu. Son humilité est grande. Cet officier, il croit à la guérison. Tes actions sont fortes, Jésus. Tu dis les choses, puis les choses arrivent. L'officier comprend sa position également. Parce que lui-même, il est en autorité. Lui ici, il est en autorité. Il y a des boss en haut de lui, je pourrais dire. Jules César, il est engagé par Jules César. Et puis lui, son armée est obligée de se soumettre à lui également. Cet homme reconnaît que Jésus a une autorité. Puis il ne peut pas aller au-delà de l'autorité qui est là. Il ne se sent pas digne de ces choses-là. L'officier explique les détails de pourquoi que Jésus a juste un mot à dire. Il dit, verset 8, « Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, et mon Seigneur, cela se fait. » Écoutez bien, ce centenier avait l'autorité sur ses soldats. Il devait se soumettre aux paroles de ses soldats. Sa parole, dirait, c'est elle qui dirige les événements. Vous serez d'accord avec ça? Le centurion a compris que c'est Jésus qui a l'autorité et la puissance des paroles. Il se soumet à son autorité. Et Jésus a été fortement impressionné par cet homme-là. En entendant cela, Jésus a dit au verset 9, « Jésus a entendu ces paroles, il admira le centurier, il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en disant, je n'ai jamais trouvé une personne d'aussi grande foi. » Jésus reconnaît un homme, écoutez, puis c'est partout dans notre vie, là. Un homme qui savait c'est à quoi l'autorité, savait c'est à quoi demander, et surtout, il était capable de se soumettre. Allô? Ça vous parle-tu un petit peu, là? T'es capable aussi de se soumettre, même s'il y avait un poste important. Il dit, hey, lui, là, qu'est-ce que Jésus fait? Moi, je n'ai pas de l'autorité de lui, qu'est-ce qu'il fait? Cet homme est assez humble pour reconnaître ces choses-là. Et c'est pourquoi que le centenier pouvait reconnaître celui qui avait l'autorité. Parce que lui-même reconnaît qu'il n'a pas l'autorité sur Jésus. On n'a pas l'autorité sur Jésus. C'est Jésus qui nous donne l'autorité. Il devait se soumettre à Jésus. Il ne pouvait donc pas dire, c'est moi qui vais guérir l'homme. Non, la seule chose qu'il pouvait dire, toi Jésus, tu as l'autorité, le pouvoir de guérir par ta parole. C'est ton autorité. C'est toi qui règnes. Alléluia. Par la foi, il a demandé à Jésus d'utiliser son autorité pour guérir. Et de retour à la maison, cet homme a été guéri. L'humilité, la foi de l'officier a fait que Jésus a adhéré à sa demande. Comprenez-vous l'aspect de la soumission? L'aspect de reconnaître les choses que c'est Dieu qui règne, puis c'est pas toi qui va dire à Jésus quoi faire. C'est à toi de soumettre au règne de Jésus. Et souvent, en tant qu'Église, on dirait qu'on veut prendre les devants sur Jésus, mais c'est pas toi qui as le devant, c'est lui qui le bosse. C'est lui qui l'a bâti, l'Église, sous ton autorité. T'es sous son autorité. Alléluia. Deuxièmement, le pouvoir de la parole nous a été donné. On va parler un petit peu pour nous. Matthieu 8, 16. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. J'aimerais m'arrêter quelques instants pour... On parle beaucoup de Jésus, les miracles, on va en parler ce matin. D'où venait la puissance de Jésus en tant qu'homme? Parce que Jésus est venu au monde en tant qu'homme. Il était divin, mais il était homme aussi en même temps. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 3, 16, lisons ensemble, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortait de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Quand Jésus a été baptisé, les cieux vont s'ouvrir et Jésus a vu quelque chose de merveilleux. L'Esprit de Dieu descend sur une forme de colombe et est venu sur lui. N'oubliez pas le mot « sur lui » parce que je vais y revenir. Là. J'aimerais m'arrêter sur un mot, sur deux mots en réalité. Les cieux s'ouvrir. C'est ça qui est écrit? Les cieux s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Donc, c'était un acte de grâce, c'était un acte de gloire. Le résultat, Jésus est à loin maintenant pour l'infliger, parce qu'on est encore dans l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance n'est pas encore là. Maintenant, Jésus vient annoncer le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, Jésus aussi avait besoin d'être accompagné. Et, en travers ce verset, maintenant, Jésus est à loin pour renverser les forces des ténèbres. Et le combat de l'Église, il n'est pas entre nous. Dis à ton voisin, je ne suis pas en guerre avec toi. Je ne suis pas en guerre avec toi. Je ne suis pas avec toi, je suis en guerre. Moi, je suis en guerre comme mon ennemi. Mon vrai combat, il ne devrait pas être ici. Mon combat, il devrait être à l'extérieur. Allô? La mission de l'Église, ce n'est pas la bataille entre nous. La mission de l'Église, c'est quoi? C'est l'extérieur de l'Église. Et je pense que Jésus, en tant que Fils de l'homme, était maintenant revêtu de l'onction du ciel. Il était équipé pour faire le ministère. Le Saint-Esprit est venu comme une colombe, écoutez bien, et à partir de ce moment-là, cette colombe est venue se déposer sur lui. Donc, tout ce que Jésus a fait, sa prédication, les miracles, les guérisons, les délivrances, chasser les démons, la victoire sur le péché, la résurrection d'entre les morts, a été accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Et on devrait dire à l'Église, « Bienvenue, Saint-Esprit! » Alléluia! Ça peut nous déranger, mais l'Esprit de Dieu, il sait comment bouger. Je n'ai pas à lui donner d'ordre. S'il veut faire les choses, qu'il le fasse. J'aime bien mieux que c'est lui qui prenne la place, mais j'aime bien mieux aller masser et prendre le contrôle. Là. Comprenez-vous? C'est lui qui est Dieu, pas moi. Là. Et le Saint-Esprit est revenu et revêti de force dans le pouvoir de gagner la bataille, je pourrais dire. Donc, Jésus a démontré sa supériorité. En quoi? En proclamant la parole. Donc, le combat pour Jésus, il était avec qui le combat avec Jésus? Deux choses, la classe religieuse, puis deuxièmement, avec qui? Avec son ennemi, avec le monde des ténèbres. C'était ses combats, Jésus, tout le long de son ministère. Et Jésus a proclamé la parole. Le ciel a accompagné Jésus par les signes, par les miracles, tout ça. 40 jours dans le désert, Jésus est rentré rempli du Saint-Esprit. Luc 4. Mais quand Jésus a été dans le désert, Satan est venu, il a confronté Jésus. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a repris même son ennemi par la parole. Donc, écoutez bien, Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Jésus s'est servi d'une parole de vie, alléluia, il a acculé son ennemi, Satan, au mur, et l'ennemi était obligé de lâcher prise. Par quoi? Par la parole. Confessez-la, la parole. La parole de Dieu a démontré la supériorité. Jésus était rempli. Il était la parole incarnée. Il était le Logos, la parole qui relève le cœur de Dieu dans nos vies. Donc ça devrait également pour nous. Jésus est la parole dans notre vie. La parole, c'est notre fondation. C'est notre maison qui est bâtie sur le rocher de notre salut. Si les tempêtes viennent, si on est fondé, on va rester en place. Votre foi ne sera pas fondée juste sur des émotions. C'est ça souvent les gros problèmes qu'on rencontre, les émotions. Oui, en tout cas, vous en avez des émotions. Ceux qui me connaissent savent, vous en avez des émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes émotions. Chut, chut. On est tous un peu comme ça. Est-ce que c'est vrai? Mais il n'y a pas juste les émotions, il y a la parole aussi qui nous dirige dans ça. Ma foi n'est pas fondée juste sur du oui-dire, mais je dois prendre et confesser la parole. Le Saint-Esprit, c'est ma force. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et à la sortie du désert, regardez bien, on va regarder un texte pour m'appuyer, Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a rempli, revêtu. L'onction reposait sur Jésus. Et c'est pourquoi qu'il est écrit dans 4, 18, l'Esprit du Seigneur est où, là? Est où qu'il est écrit, là? Est sur moi? Donc, l'onction qui était sur Jésus se dégageait de Jésus. L'onction emportait les guérisons et les délivrances. Il y avait une portée spirituelle sur sa vie, une onction sur sa vie qui faisait que ça se dégageait. La femme d'une perte de 12 ans a touché le vêtement. Elle dit simplement, je peux toucher le vêtement, je vais être guérie. Il y avait quelque chose qui se dégageait de Jésus. Jésus est venu. C'est la bonne nouvelle. Quand Jésus enseignait, prêchait, il dégageait la parole de Dieu, la puissance qui détrônait les ennemis. Jésus, par sa parole, rencontrait le bien-être des gens. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on a une bonne nouvelle. On n'est pas là pour se tuer et s'assommer entre nous. C'est pas ça la bonne nouvelle. Je pose une question. Faut combien de temps tu n'as pas témoigné à une personne, tu n'as pas prié pour une personne, pour un inconverti? Allô, je vous pose des vraies questions, là. On a l'onction, les pentecôtistes. On est pentecôtistes. Pourquoi nos églises ne grandissent pas? On a l'onction, on a l'onction, on a l'onction. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on manque d'audace? Allô? Est-ce qu'on manque de courage? Est-ce qu'on a peur de s'identifier dans notre foi? Hein, je vais dire, hey, pasteur, maintenant, calme-toi, là. Non, non, il n'y a pas le goût de me calmer du tout, là. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Êtes-vous déjà posé la question? À place de s'entretuer entre nous, là, allons donc faire une job dehors, puis allons tuer le vrai qui a besoin d'être tué. Là. Allô? La véritable onction, le joug de l'ennemi, elle vient libérer les cœurs, et rendre les gens heureux. Elle vient nous mettre du sourire dans le visage. C'est bon de sourire. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour du Père, c'est de nous faire du bien aussi. Et c'est pourquoi que Jésus nous a transféré la parole de Dieu pour la proclamer dans la puissance. Nous ne sommes pas des orphelins. Jean 15, 26, quand le Consolateur, quand sera venu le Consolateur que le Père enverra de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il rendra témoignage de moi. Donc, on n'a pas reçu le Saint-Esprit pour être devant nos télévisions 24 sur 24. Là. On est appelé à faire quelque chose. Jésus nous dit qu'il va nous donner le Saint-Esprit. Jésus a dit également que ce Saint-Esprit-là, il est appelé le Consolateur. Et le mot consolateur, c'est le paraclétos, nous le savons. Si vous voulez un consolateur, le paraclétos, c'est celui qui se tient à côté et qui est appelé à marcher avec moi. Et étymologiquement, si vous faites l'étude, si vous allez encore plus loin, le paraclétos, dans l'époque, vous savez, quand quelqu'un était attitré ou qui devait se présenter devant un tribunal, qui était demandé pour y aller, et si cet homme allait en cour et il n'y avait pas personne pour le défendre, il le regardait dans la salle dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pouvait l'aider dans sa plaidoirie. Et donc, quand il trouvait une personne, il appelait la personne, il dit « Viens à côté de moi, viens m'aider ». Donc, il faisait le rôle du paraclétos. On se comprend? Donc, l'accusé disait viens m'aider. Et à partir de ce moment-là, il était à côté de lui pour l'aider. Le consolateur, c'est celui qui nous apporte le soulagement, qui emporte, qui est appelé à côté de moi, qui vit en moi, à côté de moi. Il me console, il plaide, il intercède, il exhorte, il fortifie. Nous ne sommes pas seuls. Et on oublie ça. Des fois, pauvre petit moi, pauvre, hein? Pauvre petit moi, combien de fois j'ai entendu ça? Pauvre, on est tous des pécheurs. Non, on est sauvés par grâce. Arrêtez de vous voir pauvre petit pécheur. Vous êtes des enfants de Dieu. Voyez-vous comme quelqu'un d'important? Je le répéterai jamais assez. De la manière que le Saint-Esprit vient, il vient pour me donner les victoires, c'est mon ennemi. N'est-ce pas que Jésus nous a dit, Jean 14:16, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire encore? Il semble évident ici que Jésus se considère lui-même comme étant le premier consolateur parce qu'il est avec les disciples, il marche avec eux. Maintenant, Jésus dit un autre consolateur qui s'appelle le paraclétos. Donc, il va prendre la place de Jésus. Il vient œuvrer en son nom. Jean 15, 26, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à moi, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, lorsque Jésus nous parle du consolateur, donc, le consolateur, le Saint-Esprit, vient glorifier le nom de Jésus au lieu de se glorifier lui-même par la venue du consolateur, du Saint-Esprit. Maintenant, il nous enseigne toutes choses sur le royaume de Dieu. Et toutes choses, ça comprend aussi les signes et les miracles et les prodiges. L'Église, c'est du « bénis-moi ». Oh, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas juste dire du Seigneur, juste du bénis-moi. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la bonne Gilles. Allô? Dieu nous aime? Oui. Est-ce que Dieu nous demande de faire des actions? Aussi. Alléluia. Ce n'est pas juste du bénis-moi là, ce matin. Donc, le fait que Jésus nous donne le paraclétos, il nous rappelle qu'est-ce que Jésus a fait. Et ça équivaut à avoir la présence de Jésus dans votre vie. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il agit comme si c'était sa propre personne. Jean 14, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, la présence du Saint-Esprit dans votre vie, c'est la présence de Jésus dans votre vie. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la plénitude de Jésus dans votre vie. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est saint, il est pur, il est parfait, il est sans défaut. Il est le Saint, il est Dieu. Il vit en vous, il veut faire les miracles, il est saint, il est prêt. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Alléluia! Le Saint-Esprit répond aux ordres du Père et du Fils. Il est égal au Père et au Fils. La mission de Jésus était accompagnée par le Saint-Esprit. Je vous parle comme ça parce que la Pentecôte s'en vient. Ce n'est pas moi qui vais vous prêcher à la Pentecôte, mais la Pentecôte, je vous prépare la Pentecôte. On a besoin d'être des gens pentecôtistes pour le faire. Là. Vous savez, je me souviens de la première église qu'on a eue. On était dehors, on était... je me souviens-tu, Manon? Le Seigneur m'avait dit en prière, il dit, Serge, tu passes un référendum à l'Église. Il dit, un référendum. Il dit, je veux que tu prêches à l'extérieur de l'Église. Il dit, Seigneur, on va se faire... Il n'y a pas un chat qui va vouloir sortir dehors. C'est fou ce que tu me demandes là. Et c'est complètement fou. Jamais non, je dis, je vais demander à l'Église, on veut sortir dehors. Elle dit, t'es certain de ça? Il dit, je suis certain, mais certain. On a passé, le dimanche, je suis arrivé à l'Église. J'ai demandé combien qu'aimerait ça qu'on sorte nos chaises dimanche matin, qu'on fasse nos cultes à l'extérieur. Pas toutes! Et le Seigneur, c'est ma chair qui vient de parler. Et dans la semaine, le Seigneur dit « relance ». Il dit « Seigneur, c'est fini, ça ne marche pas ». J'ai redemandé aux gens, il y a eu quelques braves qui sont levés. « Ben, sais-tu, ça ferait peut-être un peu différent, sortir de notre petite coquille, là, tu sais. » Ce ne sera pas une mauvaise idée. On a commencé à faire des cultes le dimanche matin à l'extérieur. T'en souviens, Manon? Dans le parking. On était sur un parking dans une école. On avait deux gros haut-parleurs puis qui crachaient. Là. On mettait de la musique, puis let's go, la parole. Ben, on y allait. Puis les gens passaient devant nous autres, puis ils changeaient de rue. Ils disaient, c'est qui ces fous-là? On avait une petite église à l'époque, quand on est arrivé. On était 12. 12. En 3 ans, l'église a prospéré jusqu'à 90 personnes. On a commencé à mettre la semence. La semence, c'est à l'évangélisation. La semence, ce que vous avez à faire, ce n'est pas du bénis-moi. Votre job, ma job, c'est la proclamation de l'Évangile. Et le Saint-Esprit est avec vous pour vous accompagner. Ayez pas peur, osez faire les choses. C'est pourquoi nous sommes appelés à témoigner. Alléluia. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si on veut faire des disciples de toutes les nations, il faut parler. Tu ne feras pas un disciple à rien dire. Il faut que tu participes à l'action. Alléluia. Donc, la grande promesse qui était sur les apôtres, donc, c'était de prendre la relève. Nous sommes encore aujourd'hui la relève. On sera peut-être plus là, nous, dans 20 ans. Allô? Donc, il va falloir qu'il y ait du sang neuf qui rentre. Allô, allô, allô? Donc, il faut l'Église qu'elle brille dans sa splendeur à quelque part. L'enseignement de la parole de Dieu, de former non seulement les disciples, mais Dieu a formé aussi les ministères. Nous sommes trop basés sur un pasteur, mais il y a les évangélistes, les prophètes. Qu'est-ce que vous faites avec les apôtres, les docteurs de la parole de Dieu? L'Église, c'est pas juste un pasteur. L'Église, c'est un corps apostolique. Dites-le! C'est ça, l'Église. L'Église, c'est pas dirigée par un homme. L'Église est dirigée dans le pastoral apostolique comme l'Église. Pourquoi qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque qui venaient à l'Évangile où il y avait des hommes de qualité, de différentes qualités qui étaient là pour l'édification du corps de Christ? Moi, c'est mes positions. En tout cas, je crois à cela. Je crois que nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que Serge aussi, que nous sommes appelés à témoigner l'amour de Dieu. La Pentecôte, le Paraclétos qui est venu, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Qu'est-ce qu'on fait avec sur nous? Qu'est-ce qu'on fait avec la puissance qui est sur nous?
On agit.
C'est simple. On ne peut pas être plus clair que ça. On agit. Donc, on a besoin d'agir. Vous recevrez cette puissance comme Jésus qui a reçu la puissance, comme la colombe qui est descendue sur Jésus par la proclamation de l'Évangile. L'onction, elle, oui, elle nous transforme. Oui, elle nous rend saints. Oui, elle nous rend purs. Oui, elle nous emporte la révélation de la parole. Oui, Dieu me parle par la parole. Oui, j'ai besoin de recevoir la parole, mais j'ai aussi besoin de recevoir la puissance. Et si vous l'avez, la puissance, vous l'avez par votre parlant d'autres langues, c'est le signe que vous avez reçu la puissance. Donc, il y a des gens dans l'Église qu'on va rencontrer dans diverses églises, les gens viennent nous voir, disent, « Ouais, mais on ne parle pas nous autres en langue. » Bien, parle, tu l'as reçu. Pourquoi parler en langue? Combien de fois vous avez eu des enseignements, pourquoi je parle en langue? Les gens ne savent même pas pourquoi ils parlent en langue. Il y a de la puissance dans de parler en d'autres langues. Les révélations de Dieu... Manon, quand elle travaillait à l'époque, souvent j'allais la rencontrer l'après-midi, on prenait un café ou on jasait, puis souvent mes temps en prière, honnêtement, j'ai eu des périodes dans ma vie chrétienne. Le matin, j'avais 1 heure et demie de juste de parler en langue. Juste parler en langue. Juste ça. Je prenais ma parole, je lisais, puis moi j'appelle ça des textos. Tout un petit pensée qui me vient. Tout un autre petit pensée qui me vient. Un autre petit pensée qui venait. Je recevais mes messages. de cette façon. Et le parler en d'autres langues, vous devrez parler en langue. Si vous l'avez reçu, parlez en langue. C'est une de vos grandes forces. C'est la force qui a été donnée à l'Église pour votre éducation et autre chose, mais aussi pour la puissance de Dieu. Alléluia! Le Saint-Esprit est là, il est avec vous. Plus vous allez vous en lamenter. On parle souvent en humour avec le frère Hood, quand on était au collège biblique, on se promenait avec des cartons, avec des versets. On avait une trentaine de cartons. Puis Claude nous disait à l'époque, « Je veux les virgules et les points à la ligne. » Il ne nous donnait pas « Car Dieu a tant aimé le monde. » Tout le monde le connaissait. On avait des strophes, là, des strophes. Là. On était là, là, on s'arrachait. Je sais comment on va apprendre. Papa? Mais savez-vous, hein, Manon? On se promenait, « Hey, dis-moi tel verset. Dis-moi tel verset. » Là, on sortait nos cartons. Savez-vous, on a mémorisé la parole. Puis quand on va témoigner, plus vous allez mémoriser votre parole, plus les versets vont venir, plus vous allez être fort dans votre témoignage. Allô? Il faut se faire violence, mes amis. C'est la révélation de la parole de Dieu que vous réclamez. C'est son esprit qui vit dans sa parole. C'est l'esprit qui devient vrai et qui l'accomplit. Le miracle Jésus, cet homme, j'ai du loin de Dieu, a démontré son royaume par sa parole. Mais la parole est accomplie aussi par la démonstration des signes et prodiges et tout cela. Cette onction de puissance a été donnée pour les apôtres. Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez... » Qu'est-ce qui est marqué? Le même mot qu'on a vu que Jésus a été revêtu, c'est le même mot que nous voyons aussi qu'on va être revêtu d'en haut. C'est la même chose. Donc, le Saint-Esprit est venu sur nous pour nous revêtir de la puissance sur la Pentecôte. Et le réveil a éclaté à la Pentecôte. Nous le savons. Hébreux 2, 4. Dieu appuyait leur témoignage, par quoi? Signe, prodige. Vers miracle et par les dons du Saint-Esprit. Je ne l'invente pas, là. C'est écrit dans vos Bibles, cela, là. Si on ne comprend pas notre mission, on passe à côté de quelque chose de grand. Je le répète, si on ne comprend pas c'est quoi notre mission, l'évangélisation, on passe à côté de notre mission. Je n'ai pas un gros amen ici, là. C'est facile de venir à l'Église, se laisser bénir, se laisser enseigner, se laisser prêcher. C'est, tout le monde peut faire ces choses-là. Tout le monde peut avoir une Bible dans les mains. Puis peut avoir bien de la poussière dessus, puis le dimanche matin, juste l'enlever pour dire ça paraît bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Si tu veux grandir, tu as besoin du calcium dans ta vie. C'est ça, Jean-Pierre disant non, le lait, tu as besoin du lait spirituel. Donc, le témoignage, c'est pas juste d'avoir la Bible et de lire la Bible, qui est naturellement correct, mais ce livre de vie doit vivre en nous. Et les gens de notre société doivent savoir qui, par qui nous vivons. Et c'est là qu'on arrive dans les vraies choses. Qu'est-ce qu'en tant qu'Église qu'on peut faire pour démontrer à notre société qui nous sommes en tant que chrétiens? Ils voient l'Église Pentecôte. Ça le dérange souvent du monde. Ils vont dire, c'est des sectes. C'est ça qu'ils disent. Mais si vous démontrez votre carte de visite, que tu vas prier avec quelqu'un, tu vois quelqu'un de malade ou tu vas aller à quelque part, frère, tu ne te l'appelleras pas frère, tu ne connais pas son nom, mais tu peux lui dire, tu peux-tu prier avec toi? Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans un hôpital quand j'ai eu des examens à passer. Tu sais, j'ai le même problème que lui, j'ai une maladie. Il dit, veux-tu que je prie avec toi? Il m'a regardé tout sérieux. Je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai un cancer, pareil comme toi, puis Dieu me guérit. Tu me donnes-tu la permission de prier avec toi? Il y avait deux ou trois personnes qui m'en regardaient. Il dit, il est fou, lui. Mais c'est ma foi. Comprenez-vous? C'est ma foi. Je dois témoigner ma foi. Puis si je prie, puis une fois, hey, puis s'il sera guéri. Hey, si je. Puis s'il sera guéri. Quel témoignage! L'onction, elle se dégage. C'est possible. Puis c'est possible. Alléluia! La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre puissance, notre autorité Elle est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Elle est là pour faire croître l'Église de Dieu. Alléluia! Mais elle doit vivre dans son surnaturel. Et le ciel est connecté avec nous. J'espère que vous y croyez à ce langage-là ce matin. Nous avons tous reçu quelque chose. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. En Christ, nous sommes complets dans notre position. Car le Saint-Esprit, il vit. Il dit « Allez ». Matthieu 10, versets 7 et 8, il dit « Allez ». Il dit « Reste pas passif. Allez, prêche, chez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les lépreux, purifiez les cherchez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Vous posez la question au matin, là. Comment ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça? J'ai pas grand main qui se lève, hein? Pourquoi qu'on ne le fait pas? On est-tu gêné notre Jésus? On doute-tu du nom de Jésus? On doute-tu de la parole de Jésus? Allô? Ça vous parle-tu un petit peu? Nous avons des ressources extraordinaires. Jésus nous a donné des clés extraordinaires. Nous avons des clés pour ouvrir le royaume de Dieu. Pierre, hein, on connaissait toute l'histoire, acte-toi. Hein? Il y a un paralytique qui n'est pas capable de marcher, puis il s'attend à mettre du cash. Pierre, du moins, ne demande pas au pasteur si on a de l'argent, on n'en a pas là. Mais il dit, j'ai quelque chose. Il dit, non, Jésus, lève-toi, puis marche. Y a-tu eu de l'audace, toi, tu penses? Allô? Combien qu'il aurait eu cette audace-là? Par son audace, il a déclenché quelque chose. Il a ordonné à la parole de s'exécuter. Il était créatif dans son affaire. Il s'est exécuté, le miracle s'est déclenché. Pierre va prendre cet homme par la main, il a eu le miracle. Oh, hallelujah! L'onction, elle se dégage. Il y a eu une action, l'action a fait une réaction. Faites l'action, vous allez voir la réaction. Pas d'action, il n'y a rien qui se passe. Le miracle s'est manifesté parce que la parole a été déclarée sur la vie de la personne. Encore Pierre qui a ressuscité un mort, ressuscité un mort. On entend parler de ça en Afrique, des grands évangélistes guérissent, des morts ressuscitent. Moi, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. Ça prend de l'audace de dire à un mort, là, réveille-toi de ta mort. Là. C'est pas là, mais ça prend du culot. Ça prend de la foi, ça prend de l'audace. Et je pense que l'Église, nous avons perdu notre audace. On a perdu, je crois, de tout cœur, et je vous parle humblement, de plusieurs, et puis je me suis mis dans le bateau, « Serge, où est ton audace? » T'en souviens, Manon, comment que j'étais dérangeant? Tout le monde voulait m'éviter. Tout le monde. Oh, lui, il est fatiguant avec sa religion. Je dis, non, je ne te prêche pas une religion, je te parle d'un Jésus qui t'aime. Partout. Les médecins, on a donné une Bible à un médecin, il n'y a pas longtemps encore. Un médecin. Il dit, « Monsieur, croyez-vous que Jésus guérit? » C'est un médecin scientifique. Il dit, « Pourtant, vous avez une preuve devant moi. Là. Je suis supposé de mourir. Non, puis je suis encore devant vous. » Puis il dit, « vous dites que vous êtes guéri. » Ça, c'est la parole qui le fait, monsieur. Croyez-vous? Je vous la donne. C'est la vie éternelle qui est devant vous, je vous donne. Là. Il l'a pris par politesse. Mais on a osé quand même. Ce serait bon d'avoir un docteur à se convertir. C'est pas des intouchables. Acte 9, 40. Pierre est sorti, tout le monde, il s'est mis à genoux, il pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi! » Elle ouvrit les yeux et elle l'a vu. Bon, moi, quand je lis la parole, je vois des choses comme ça. En tout cas, je ne sais pas si ça vous excite, là, mais moi, je suis là dans mon bureau, je dis, « Seigneur, j'ai-tu donc hâte de voir ça, là? » Puis là, ça me répond, « Qu'est-ce que tu attends? » Qu'est-ce que tu attends? Allô? Marc 16, 15, leur dit, allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira sera sauvé, baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Chasseront les démons, des nouvelles langues, les malades guéris. Voilà la bonne nouvelle, l'Église. Alléluia! Je vais terminer avec quelques points. Et qu'est-ce qui brûlait vraiment dans le cœur ce matin? Il va falloir qu'on se mouille un petit peu plus. Je n'ai pas entendu un gros amen non plus. Il va falloir qu'on se mouille un petit peu plus pour l'évangélisation. Ah, j'ai rien entendu. Alléluia. Il va falloir qu'on se mouille un petit peu plus. Alléluia. De sortir de nos zones de confortable du béni-moi et puis de se faire violence. Alléluia. De revenir, je dirais, dans l'esprit de la prière, de l'intercession, de supplication, de jeûne. Les grands réveils ont tous commencé là. En tant que disciple, j'ai besoin de connaître mon maître et j'ai besoin de marcher sur les pieds de mon maître. Et Jean 8, 31, j'avance, je termine bientôt, là. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, un disciple marche les pieds sur les traces de Jésus. Un disciple va porter la croix. Ce n'est pas toujours facile, mais il doit le faire. Alléluia! Les croyants sont certes... Ça va peut-être vous donner savoir ce que je vous dis. Les croyants sont certes pas sauvés parce qu'ils demeurent dans la parole de Christ. Certes, on demeure dans la parole parce qu'on est sauvés. Il y a un jeu de mots, là. Tu peux lire la parole, tu peux... Tout est beau. Puis tu dis, ben moi, j'ai fait ma BE un matin, j'ai lu ma parole. Si tu es en parole, tu vas vouloir vivre la parole. Tu vas vouloir prendre les occasions de la parole, de proclamer la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Les paroles qui nous animent, ça doit être des paroles qui emportent de l'espoir dans une génération perdue. Mais notre foi, notre audace doit se réveiller. Notre royaume est plus puissant que le royaume des ténèbres. Et Jésus-Christ est celui qui nous a dit, nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Deux versets, j'arrête. 1 Corinthiens 1, 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? Une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14, 5, « Ma parole et ma prédication reposaient pas sur un discours persuasif de sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. » Combien sont d'accord à dire avec moi, « J'ai besoin de retrouver ça. » Soyez honnête, là. Tu sais, là, sortons un peu de notre fantasme spirituel, là, puis regardons la réalité qui est devant nous, où que les dons doivent se manifester, où puissance de se manifester. Tu sais, je l'ai dit tantôt, puis je le redis, un bon message, ça ne va pas dire que ça va changer ta vie. Un bon message va percuter ta vie. Un message loin va percuter ta vie. La différence du bon et de l'après. Nous sommes tous dans la même école ce matin, mais il faut réaliser avec tout cœur, et dans ce temps-ci, c'est mes réflexions. On a besoin de réaliser notre pauvreté spirituelle avant le Seigneur. De réaliser que nous avons besoin d'une action du Saint-Esprit. Que nous avons besoin d'humilité et de reconnaître nos faiblesses. Qu'on a besoin de dépendre de lui davantage. Que nos cœurs commencent à crier pour un réveil. Bien beau là, parler, Israël sont en guerre. Bien beau, puis je suis bien d'accord avec tout ça. Ben moi, en tant que Canadien, là, je fais quoi pour ma nation? Je fais quoi pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais? Je dis aux gens, Jésus se revient, ils m'ont regardé. Commence à démontrer qu'à qui tu appartiens, puis proclame le royaume de ton Dieu. C'est ça notre mission. Alléluia! J'aurais beau te donner 1000 conseils. Tu vas écouter, puis on demande aux gens la main, c'est quoi que prêcher? Ah, je m'en souviens pas. Quel bon message! Apportez des gens à Jésus. Faites la différence en tant qu'Église. Vivons. Quand on veut le réveil, les premières choses, on voit l'unité de l'Église qui commence à prier dans la même direction. Alléluia! Qu'on commence à jeûner ensemble, qu'on commence à déclarer l'action de Dieu. Alléluia! On va jeûner! Oh, le midi arrive, on a faim! On va jeûner! On a faim! Jeûner, c'est notre puissance. Le message de l'Évangile, c'est le message que nous devons proclamer. Acte 2, 17, je termine. Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Verset 21, alors que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donc, c'est-à-dire que nous avons des pétards mouillés. Et c'est le temps que nos pétards sèchent pour être allumés.
Amen.
Et je sais que ce n'est pas un discours qui va plaire à tout le monde, mais je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour prêcher la parole de Dieu et de dire c'est le temps qu'on se lève, peuple de Dieu, puis qu'on commence à dire notre mission, c'est pas du bénis-moi, mais emporte des nouveaux. Ça, c'est la mission. L'Évangile a été écrit pour ça. Le Saint-Esprit a été donné pour ça. Lisez votre parole, vous allez voir que tout le monde est unanime à dire c'est le Saint-Esprit qui a agi. Et c'est la croissance du Saint-Esprit qui fait croître son Église. Sans le Saint-Esprit, on devient des religieux. Ça s'arrête là. Je me mets dans la même galère que vous un matin. Je vous le dis là. J'ai besoin de dire « Seigneur, où es-tu? » Je priais cette semaine, je disais « Seigneur, donne-moi un nouveau manteau. Donne-moi une onction fraîche. Donne-moi quelque chose qui va réalimenter. » Est-ce que vraiment, attends, c'est-tu ça qu'on a besoin? D'avoir des gens qui vont s'épanouir, qui vont grandir, qui vont faire du bien aux gens, qui vont manifester qui est Dieu. On va se lever ensemble ce matin. J'aime l'Église, j'aime le corps de Christ, j'aime ce qui se passe dans le corps, mais je vais être encore plus heureux quand les gens vont se mettre à l'action. Amen.